Bienvenue sur le podcast FICA, une plateforme tout en douceur traitant de sujets vrais, profonds et humains. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau podcast qui est un peu la suite là, du dernier podcast. C'est pas vraiment une suite en fait parce que vous n'avez pas à aller écouter le dernier podcast pour bien comprendre ce podcast-ci. L'affaire en fait, c'est que le deuxième podcast le plus populaire en 2020, ça a été celui sur l'alimentation intuitive. Donc, je vous rappelle que le plus populaire, ça a été celui sur le binge eating, mais le deuxième plus populaire, ça a été celui sur l'alimentation intuitive. Puis honnêtement, je pense qu'on peut faire un lien entre ces deux podcasts-là, puis c'est ça que je veux aborder un peu aujourd'hui, donc de parler d'alimentation intuitive et de la peur un peu de perdre le contrôle quand on embarque dans ce processus-là. Je m'arrête tout de suite. Avant toute chose, je voulais juste faire un petit tour de définition rapide. Je sais que j'ai parlé du binge dans le dernier podcast. Je veux juste le rappeler là, au cas où une personne écouterait ce podcast-ci sans avoir écouté l'autre. La notion de binge eating, qu'on pourrait appeler compulsion alimentaire en français, on dirait que dans les deux cas, j'aime pas tant les mots. J'aime ça dire binge, mais je trouve que binge eating, vu que mon accent en anglais est pas super, le mot eating, on dirait que j'aime pas ça le dire. Puis compulsion alimentaire, je trouve que c'est long. En tout cas, souvent je vais dire binge, mais tout ce que ça signifie dans le fond, c'est comme le fait de manger une grande quantité de nourriture en un court laps de temps, malgré que la faim se fait plus sentir. Donc généralement, là, tu vas être inconfortablement plein, c'est quand même dur à dire ça. Fait que tu manges une grosse quantité de nourriture en un court laps de temps, t'es très très plein jusqu'à être inconfortable, t'as la sensation de perdre le contrôle, puis généralement il va s'en suivre un gros sentiment de culpabilité, en fait pas généralement là, il va s'en suivre un sentiment de culpabilité, puis d'autres sentiments comme par exemple le dégoût de soi-même ou la honte. Fait que ça c'est un épisode de binge ou de compulsion alimentaire. Par contre, on peut aussi parler d'hyperphagie boulimique, puis ça, c'est quand les épisodes de binge deviennent récurrents. Puis ça, ça peut être diagnostiqué, puis le but du podcast, c'est vraiment pas que vous vous posiez un auto-diagnostic, c'est un trouble de santé mentale qui est dans le DSM-5, par exemple, puis il y a vraiment des critères diagnostiques là, pour poser un diagnostic sur l'hyperphagie boulimique. En anglais, c'est le binge eating disorder. Ça peut aussi être appelé l'accès boulimique, donc ça, c'est vraiment, là, on peut poser un diagnostic à ce niveau-là, puis, tu sais, il y a différents critères, là, je voulais pas nécessairement passer à travers les critères, mais les épisodes de binge font partie de l'hyperphagie boulimique, mais c'est pas parce que tu binges de temps en temps que t'es atteint d'hyperphagie boulimique, fait que c'est juste ça que je voulais mettre au clair. Puis le binge, c'est aussi différent de juste, comme, trop manger, parce que on pourrait appeler ça, par exemple, l'excès alimentaire, mettons. Tu sais, c'est pas parce que tu manges trop que t'as binge. Parce que un épisode de binge, là, c'est vraiment accompagné d'une sensation de perte de contrôle puis d'un sentiment de culpabilité. Tandis que le fait de trop manger, c'est simplement manger au-delà, si on veut, des signaux de la faim. Fait que c'est pas, par exemple, par rapport nécessairement à un nombre de calories, mais c'est vraiment, tu sais, tu manges, puis tu commences à être pas mal plein, tu sais, t'es quand même inconfortable, mais tu continues à manger pour X raisons, tu sais, ça peut être parce que t'es à un bon souper, t'es avec des amis ou peu importe, tu continues de manger, mais t'as pas nécessairement le sentiment de culpabilité, là, tu sais, qui s'ensuit après. Puis ça, tu sais, trop manger, je veux dire, c'est normal, ça arrive à tout le monde, je veux dire, c'est impossible de toujours manger parfaitement à sa faim, puis c'est pas problématique en soi, ça peut devenir évidemment problématique si c'est comme tout le temps, tu sais, évidemment. Par contre, faut quand même faire la nuance entre le fait de trop manger, le fait de binge, puis vraiment le diagnostic d'hyperphagie boulimique, c'est vraiment trois choses complètement différentes. Fait que quand je parle de binge, tu sais, ça se peut que certaines personnes se reconnaissent, je veux pas nécessairement alarmer les gens, là, tu sais, je veux dire, c'est pas parce que t'as l'impression de te reconnaître dans ce que je parle, que là, ta vie est finie ou que faut que tu capotes ou peu importe, là. Mon but, c'est jamais d'alarmer dans les podcasts, c'est toujours de conscientiser à la chose. Puis de peut-être, tu sais, donner des pistes de solutions. Mais évidemment, c'est vraiment, tu sais, à des fins éducationnelles seulement. Donc, si jamais vous sentez que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à aller consulter un professionnel de la santé. Fait que la petite intro est faite. Je pense que ça fait quand même un bon résumé. On va pas reparler nécessairement du binge aujourd'hui, là. Je vais, tu sais, quelques fois mentionner le mot, là, dans le podcast parce que, comme je vous ai dit tantôt, je pense qu'il y a un lien à faire entre l'alimentation intuitive et le binge. Pas qu'un cause l'autre, là, pas du tout, mais vous allez comprendre tantôt. Parce qu'en fait, là, cette idée-là m'est venue en tête parce que je me rappelle, dans, j'aime ça plugger mes expériences personnelles, hein, en passant dans les podcasts, vous commencez à être habitué. Je trouve que ça rend la chose plus concrète, plus humaine également. Mais dans ma période là, où que j'étais... en fait, je me rappelle plus si j'ai eu un diagnostic, honnêtement. Oui, parce que j'étais allée consulter, whatever. OK, c'est ça. Dans ma période où on m'avait diagnostiqué de l'hyperphagie boulimique, je me rappelle que un de mes plus grands souhaits, tu sais, à ce moment-là, c'était de pouvoir, tu sais, manger sans toujours avoir peur de prendre du poids. Puis pour moi, à ce moment-là, puis c'est fréquent chez plusieurs personnes, la peur de prendre du poids venait surtout d'une peur de perdre le contrôle sur mon alimentation. Puis c'était les binges qui amplifiaient cette peur-là, parce que c'est un peu ce qui se passe quand tu binges, t'as l'impression de perdre le contrôle. Puis moi, à ce moment-là, ce qui me faisait peur, c'était juste d'être incapable d'arrêter. Donc, j'avais peur de perdre du poids en ayant peur de perdre le contrôle, si on veut. Je sais pas si ça fait du sens. Puis... pour moi, tu sais, autant que je souhaitais être capable de manger sans tout calculer, sans toujours tout penser à ma tête, c'est-tu trop, est-ce que je dois manger ça, faut-tu que je bouge ou whatever, tu sais, c'était beaucoup ça qui se passait dans ma tête à ce moment-là. C'est autant que j'aurais aimé ça, être capable de manger intuitivement sans me poser toutes ces questions-là, souvent le fait d'essayer de manger intuitivement finissait par être une façon de perdre le contrôle. Parce que, on va le voir tantôt, j'avais encore des règles alimentaires dans ma tête, comme j'ai parlé dans le dernier podcast. Puis finalement, ça faisait simplement en sorte que je finissais par binge. Puis je me disais que finalement, c'était mieux si je gardais, tu sais, le contrôle sur mon alimentation en calculant tout. Fait que, tu sais, il y a une période où je me sentais mieux en calculant toutes mes affaires parce que je me disais, ainsi j'ai le contrôle, c'est beaucoup moins stressant. J'en ai déjà aussi parlé là dans un autre podcast, là je déroge peut-être un peu, là, mais moi j'adore la docteure en psychologie, je sais plus, je dis peut-être pas son titre de la bonne façon, là, mais la docteure Sonia Lupien qui a écrit un livre, Par amour au stress, je l'adore, cette dame, là, pour quand elle parle du stress, je trouve qu'elle en parle tellement bien. Puis elle, ce qu'elle explique, c'est qu'il y a 4 facteurs qui vont générer une réponse de stress chez l'humain. Parce que le cerveau fait pas la différence entre les stress absolus puis les stress relatifs. De nos jours, c'est surtout des stress relatifs, donc c'est vraiment propre d'une personne à l'autre. Puis ce qui va influencer le stress relatif particulièrement, c'est les 4 facteurs dont l'impression de perdre le contrôle, l'imprévisibilité, la nouveauté, puis la menace à l'ego, la menace à la personnalité un peu si on veut. Puis où je voulais en venir avec ça, oui c'est ça, c'est qu'un des facteurs, bien évidemment, c'est l'impression de perdre le contrôle. Donc, c'est comme si le fait de tout calculer ce que je mangeais, ça me donnait l'impression d'avoir le contrôle, puis c'était beaucoup moins stressant. Fait que je le comprends un peu comme ça, de, tu sais, aujourd'hui avec le recul. Par contre, tu sais, il y a un moment où, oui, ça diminue le stress, mais c'est pas nécessairement comme ça que tu veux vivre tout le temps. OK? Puis ça a été très important pour moi parce que j'avais besoin de changer ça. J'avais besoin de ce défi-là, d'être capable d'arriver à manger, à me sentir bien dans ma tête, dans mon corps, puis dans ma vie en général, sans avoir à tout calculer. Puis c'était un processus que je voulais vraiment entreprendre. Donc, l'alimentation intuitive, c'est quelque chose, tu sais, qui m'interpellait. Je savais juste pas au départ comment m'y prendre. Puis le problème, c'est que je suis embarquée dans l'alimentation intuitive, un peu dans l'optique de manger moins. Donc, c'est comme si je me disais, je peux manger un peu ce que j'ai envie, quand j'ai envie, mais au fond de moi, c'est comme s'il y avait une partie de moi qui me poussait toujours à manger moins. Je sais pas si c'était conscient ou inconscient. T'sais, c'est sûr que là, avec le recul, je suis capable de l'admettre puis de le réaliser, mais sur le coup, c'est dur à dire si c'était conscient ou inconsciemment. Mais si t'embarques dans l'alimentation intuitive, tu te lances dans ce processus-là, mais dans l'optique de manger moins, tu vas rester dans la mentalité des diètes, puis tu vas encore tomber dans le panneau. Ça veut dire que toutes tes cues externes, si on veut, donc, par cue externe, je veux dire les règles alimentaires. Fait que là, je veux pas revenir là-dessus parce que j'en ai vraiment parlé dans le dernier podcast, mais une règle alimentaire, ça pourrait être, par exemple, Si je mange ça, je suis sur la coche, mais si je mange ça, là, ça veut dire que je suis lâche. J'ai pas le droit de manger ça, j'ai pas le droit de manger à telle heure, des trucs comme ça. Ça, c'est des règles alimentaires qu'on s'impose dans notre tête. Si on embarque dans l'alimentation intuitive, puis que ces cues-là prennent le dessus sur nos cues internes, qui seraient par exemple les signaux de la faim, ben généralement, ça va mener à la restriction, comme j'ai parlé dans le dernier podcast, et la restriction va mener au binge. Donc, si t'embarques dans l'alimentation intuitive dans le but de faire une diète, puis que t'es propice au binge, tu sais déjà que t'es propice à ça, c'est peut-être pas la meilleure solution, du moins vraiment pas maintenant. Je pense que le but avec l'alimentation intuitive, c'est de apprendre à rebâtir une confiance en ton corps, puis de comprendre aussi que c'est un processus. C'est le fait de rebâtir cette confiance-là en tes signaux que ton corps t'envoie, c'est un processus, puis parfois c'est plus difficile au début, surtout quand t'as été habitué à les mettre de côté, ces signaux-là, puis que tu t'es toujours, fondé un peu, tu t'es toujours, retourner vers tes règles alimentaires, si on veut. C'est sûr que ça va être difficile au début, mais je pense qu'il faut approcher ce processus-là avec une certaine curiosité. Donc, une certaine curiosité de réapprendre à écouter ce que ton corps a à dire, mais c'est pas facile sur le coup. Puis c'est ça, c'est un peu ça que je voulais aborder aujourd'hui. Tu sais, l'alimentation intuitive, c'est pas tant de manger n'importe quoi, n'importe quand. C'est oui, ça peut sonner comme ça, là, mais c'est pas tout à fait ça. Le but, en fait, avec l'alimentation intuitive, oui, c'est de te permettre de manger ce que tu veux quand tu veux, mais c'est aussi d'écouter son corps puis d'être capable de faire des choix éclairés en fonction de ce que le corps envoie comme message. C'est aussi important de rester à l'affût de ses émotions, donc de faire beaucoup d'introspection régulièrement, parce que manger ses émotions, c'est quand même quelque chose qui est relié au binge eating, mais le fait de manger ses émotions, ça égale pas manger intuitivement. Parce qu'en fait, c'est un peu le contraire, si on veut. Puis le fait de manger ses émotions, ça implique qu'un besoin émotionnel est pas comblé. Donc c'est important d'aller à la source de ce besoin-là qui est pas comblé, parce que la nourriture, au final, c'est rarement la solution. Bref, comment embarquer dans l'alimentation intuitive en laissant la peur de perdre le contrôle de côté? First, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est important de comprendre que c'est un processus qui va avoir des embûches, mais qu'il faut voir ça comme des embûches qui vont se rajouter à notre bagage d'expérience. Faut voir ça avec curiosité, donc d'essayer des choses, de réapprendre à faire confiance à notre corps, de voir ça comme un défi personnel qu'on se lance aussi, c'est excellent. Faut être conscient des règles alimentaires là, qu'on s'impose aussi là, pour les mettre le plus possible de côté, pour les reformuler à la limite, puis se pratiquer à les reformuler quand ils font surface dans notre tête. Parce que si les règles alimentaires pèsent trop fort par rapport aux cues internes, comme les signaux de la faim, ben souvent ça va mener à la restriction. Puis on l'a vu tantôt, si tu es propice au binge, puis que tu veux essayer de t'en sortir le plus possible, faut que tu essaies de limiter la restriction, là, du moins au départ, là, pour vraiment bien t'embarquer dans le processus. Donc, faut faire attention aussi, évidemment, à ce que tu te restreignes pas. Donc, quand t'embarques dans un processus d'alimentation intuitive, faut pas que tu le fasses dans le but de manger moins, parce qu'encore une fois, tu vas te restreindre, puis tu vas retomber dans des mauvais patterns. Donc, faut vraiment, là, voir ça comme une espèce de défi qu'on se lance, qu'on apprend à refaire confiance à notre corps, qu'on écoute nos cues internes, donc nos signaux de la faim, puis qu'on n'attende pas, tu sais, si tu commences à avoir faim, attends pas des heures et des heures, là. Tu sais, il faut que tu respectes ces signaux de la faim-là, puis que tu leur fasses confiance. C'est pas toujours facile, c'est normal, il va y avoir des embûches, je l'ai dit tantôt, mais la curiosité ici est super importante. Il y a plusieurs questions aussi, là, que tu vas devoir te poser. Ben, je dis tu vas devoir, là, t'es pas obligé, là, il y a pas un guide, un manuel d'instruction à faire, là. Mais personnellement, je te conseille de te poser régulièrement des questions. C'est pas lourd, là. Ça se fait super facilement, puis à un moment donné, ça devient automatique aussi, là. Ben, de un, comme je l'ai dit tantôt, c'est sûr que c'est important de rester un peu comme conscient de nos émotions, parce que, tu sais, on veut essayer le plus possible de manger émotionnellement, parce que, tu sais, si t'as envie, parce que des fois, faut que tu te demandes, est-ce que j'ai vraiment envie de manger ça, ou c'est parce que je suis stressée, ou c'est parce que je file moins bien? Parce que souvent, quand tu files moins bien, ben, c'est mieux que tu manges quelque chose qui va te faire sentir bien après, tu sais, pour éviter justement de manger ces émotions. C'est pas grave si ça t'arrive, c'est vraiment pas grave. Le but, c'est pas de dire, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. C'est d'essayer de vous outiller pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous avez une envie folle de manger cette chose-là, mais qu'au final, c'est juste un peu pour combler un besoin émotionnel, si on veut. Fait qu'il y a plusieurs questions que vous pouvez vous poser. Est-ce que j'en ai vraiment envie de cet aliment-là? Est-ce que j'ai vraiment faim? Est-ce que je vais l'apprécier quand je vais le manger? Puis comme j'ai dit tantôt, est-ce que j'en ai vraiment envie ou c'est parce que je suis stressée ou c'est parce que j'ai eu une mauvaise journée puis là, j'ai envie d'aller me réfugier dans cet aliment-là? Fait que c'est plusieurs questions que vous pouvez vous poser régulièrement. Non, vous n'avez pas non plus à tout changer du jour au lendemain. Tu sais, si par exemple, t'es quelqu'un de très routinier, tu manges toujours la même chose, t'as un peu tes guidelines, tu veux pas trop déroger de ça, tu veux commencer tranquillement à sortir de ça, mais ça te stresse beaucoup, t'es pas obligé de tout changer du jour au lendemain. On a tous, quand on passe par des épisodes de binge, là, on finit par comprendre qu'on a tous des triggers, si on veut, donc des aliments qui vont être plus propices à causer un binge. Mais c'est important de pas nécessairement éliminer ces triggers-là. Parce que comme j'ai déjà dit, tu vas binge ce que tu te restreins. Fait qu'en te restreignant plein de choses, ça fait en sorte que t'es plus à risque de binger sur ces choses-là. Fait que l'important, c'est pas d'éliminer les triggers, mais c'est de les rendre un peu moins excitants, si on veut. Donc, par exemple, si toi, tu sais qu'à chaque fois que t'as des biscuits à côté de toi, tu finis par en manger 15, parce que tu t'en restreins d'habitude, mais là, des fois, ça arrive que, hop, t'en manges un, puis finalement, tu finis par en manger 15, puis que ça, toi, c'est ton trigger. Ben, le but, c'est que, ultimement, t'arrives à être en présence de biscuits sans sentir cette forte pression-là de « Ah, j'ai le goût d'en manger, mais je devrais pas en manger, j'ai pas le droit », puis que finalement, t'en manges beaucoup plus que t'as faim, par exemple. C'est d'arriver à être en présence de ces aliments-là, mais en étant capable de dire « si j'ai envie d'en manger, je vais en manger selon ma faim ». Par contre, je sais que, tu sais, les biscuits sont là, ils restent là, ils vont pas s'en aller. Si j'en ai pas envie, c'est pas grave, si j'en ai envie, je peux en manger. Mais à force de s'habituer à l'exercice d'être en présence de ces triggers-là, ça fait en sorte que l'excitement est moins grand, puis les cravings sont tout simplement moins grands également. Puis tu vas faire en sorte que, ben, tu vas juste être plus capable de le manger en modération. Parce que souvent, quand tu te restreins plein de choses, puis que tu commences à manger une chose que tu te restreins, ce qui arrive chez plusieurs personnes, c'est que c'est comme le party free for all, là. Tu sais, tu te dis, ah, d'habitude, j'ai pas le droit d'en manger, donc je vais en manger, je vais en profiter en masse, puis j'en mangerai plus pendant un mois. Tu sais, c'est pas la bonne chose à faire. Ça, c'est pas ce qu'on appelle l'alimentation intuitive, OK? Donc, l'avantage, quand t'arrives à manger intuitivement, c'est que, généralement, tu vas être capable de te permettre ce que t'as envie, mais en modération, parce que tu sais que l'aliment va rester là, puis qu'il va être là quand tu vas en avoir envie, mais t'es pas obligé d'en profiter, puis de te restreindre après. T'es capable de le manger en modération. Fait que je sais pas si, là, ça faisait du sens, là. Honnêtement, c'est quand même complexe, je dirais, parce que c'est vraiment propre d'une personne à l'autre, puis, tu sais, il y a beaucoup le côté émotionnel, là, qui est impliqué là-dedans. Donc, vraiment, allez-y une étape à la fois, puis si vous savez que vous avez des triggers en particulier, bien, comme je dis, vous n'êtes pas obligé de toutes les intégrer one shot. Tu sais, des fois, ça peut juste être d'essayer d'intégrer un triggers, quitte à se céduler un moment, tu sais, te dire, bon, ben moi, jeudi soir, je vais manger mes deux biscuits, puis je vais essayer d'analyser un petit peu la situation. Comment je me sens avant? Je vais profiter des biscuits quand je vais les manger. Comment je me sens après? Est-ce que c'était bon? Est-ce que j'en remangerai la prochaine fois? Puis d'essayer de comprendre, ah, ben je me sens bien après, mais j'ai plus nécessairement envie d'en manger. Je passe à autre chose. Puis tu sais, à force de faire l'exercice, c'est comme si, ben les biscuits en question deviennent un peu moins excitants. Puis tu sais, t'as pas plus envie de ça d'en manger. T'sais. Si t'as envie, tu vas le faire, mais t'auras pas plus envie de ça parce que tu te le restreins pas. Par contre, c'est vraiment un exercice à faire, là, puis qui se pratique, puis qui va avoir des ups et des downs, puis c'est normal. Donc, ça conclut pas mal le podcast d'aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus là sur mon avis sur l'alimentation intuitive, évidemment, j'ai fait deux podcasts en début d'année 2020. Là, c'est vraiment dans mes premiers podcasts. Il y a la partie 1, il y a la partie 2. Sinon, il y a l'épisode dernier que vous pouvez écouter parce que j'ai fait beaucoup de liens avec le dernier épisode. Puis j'ai un autre épisode sur le binge eating que j'avais fait, je pense que c'est le podcast numéro 3. Donc, vous pouvez tous vous référer à ça. J'ai plusieurs aussi publications sur Instagram qui incluent tous les concepts dont je parle. Je pense qu'encore une fois, là, je veux conclure le podcast en disant que souvent, tu vas binge ce que tu te restreins. Fait que c'est super important à comprendre. Comme je disais tantôt, des fois, ce qui arrive, c'est juste que quand tu finis par te permettre cet aliment-là que tu te restreins toujours, ben c'est comme le party free for all, là. Puis tu te mets à manger une quantité astronomique de cet aliment-là, puis après ça, tu te sens coupable. Puis là, après ça, tu te dis « Ah, oh, tant pis, je vais retourner sur la diète pour éviter de que ça recommence. » Mais là, souvent, ça fait juste alimenter le cercle vicieux, tu sais, que j'ai parlé dans le dernier podcast. Donc, allez-y, une chose à la fois. Le but avec l'alimentation intuitive, comme j'ai dit, c'est pas de manger n'importe quoi, n'importe quand, c'est aussi d'être à l'écoute de son corps, d'être à l'écoute de ses émotions pour mieux gérer ses choix. Puis après ça, avec la pratique, ça devient plus facile de vraiment écouter les cues internes plutôt que les cues externes, comme les règles alimentaires. Puis ça fait en sorte que tu finis par te sentir bien, puis d'être capable de manger en modération, de manger intuitivement, puis sans avoir peur de perdre le contrôle. Alors voilà, ça conclut le podcast d'aujourd'hui. N'hésitez pas à le partager dans votre story, à vous abonner. Je sais qu'il y a certaines applications que vous pouvez vous abonner au podcast pour ne manquer aucun épisode. Sinon, je fais plusieurs publications sur Instagram aussi à ce niveau-là. J'aime ça intégrer là, plusieurs concepts, fait que j'aime ça mêler alimentation, santé mentale, entraînement. Fait que je trouve que c'est tous des beaux concepts qui vont ensemble. Donc, mon Instagram est dans la barre info si jamais ça vous intéresse. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, puis on se revoit dans un prochain podcast. Bye bye! Petit bémol, vous allez me trouver drôle, je viens de réécouter le podcast, puis je me suis rendu compte à un moment donné que j'ai dit que j'avais peur de perdre du poids, et non prendre du poids. Fait que c'est bel et bien que j'avais peur de prendre du poids, et non l'inverse. Fait que bravo à ceux qui l'avaient remarqué. Fait que sur ce, pardonnez-moi ces petites erreurs. Je pense aussi à un moment donné, j'ai dit qu'il fallait manger émotionnellement, mais je voulais dire pas manger émotionnellement. J'imagine que vous aviez compris, mais bon, je tenais à le préciser. Je pense que je vais aller me refaire un petit café. Là, je vous dis bye pour de vrai. On se revoit dans un prochain podcast. Bye bye, bonne journée!